Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet nécessaire qui a été proposé par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Mamfi, qui lance un projet de réconciliation nationale. L'idée est d'apporter une nouvelle dynamique au pays, de faire parler l'Est, l'Ouest ainsi que le Sud, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de recul face à la date du 24 décembre, date qui est prévue pour les élections générales, avec, on s'en souvient, la ministre des Affaires étrangères qui avait évoqué un possible report du fait que cela soit difficile politiquement à mener. Mais malgré tout, il y a cette volonté des autorités actuelles de Tripoli d'aller jusqu'au bout de ce processus de réconciliation, sachant que la semaine dernière, il y a eu ces affrontements qui ont éclaté entre la 444e brigade qui dépend du ministère de la Défense ainsi qu'une agence de soutien à la stabilité qui est une ancienne création de l'ancien Premier ministre libyen. Les deux entités se sont battues. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, pas de blessés, des dégâts tout de même. Mais c'est vrai que cela pose un véritable problème. Comment se fait-il que deux entités qui sont supposées faire régner l'ordre à Tripoli, le Premier ministre libyen qui occupe par ailleurs les fonctions de ministre de la Défense, a décidé d'ouvrir une enquête et de faire toute la lumière sur ces événements de telle façon à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Autre dossier qui est toujours sur la table de Dbeibah, du Premier ministre libyen, c'est celui des relations avec Tunis. On sait que celles-ci sont compliquées par ce contingent d'une centaine, d'aucuns disent un millier, mais on n'a pas encore de précision quant au chiffre réel de ces combattants tunisiens qui seraient sur la base militaire libyenne de Al-Watiya. Tunis se demande si ceci ne pourrait pas être animé par la volonté de revenir en Tunisie et de s'en prendre aux plus hautes autorités de l'État. La Libye a dit que selon elle, il n'y avait aucun problème, qu'il n'y avait pas de terroristes. Voilà donc pour l'instant, les deux capitales cherchent à se comprendre mutuellement de telle façon à ce que la tension à laquelle on assiste aujourd'hui appartienne au passé et que les relations entre les deux pays reviennent à la normale. La Tunisie, nous en parlions, la Tunisie qui est toujours mobilisée sur le front du Covid-19. Le ministère de la Santé a annoncé une nouvelle journée nationale de vaccination massive. Cela s'est déjà déroulé cet été avec un véritable succès puisque le chiffre de 500 000 injections délivrées en l'espace d'une journée avait été atteint, ce qui est tout à fait considérable. Là, ce sera donc le samedi 11 septembre qui verra une nouvelle journée de vaccination à destination plus spécifiquement des 18-39 ans. On ne va pas rentrer dans le détail des premières et deuxièmes injections parce que tout cela dépend bien évidemment des vaccins, mais l'objectif de la Tunisie est d'être à terme avec une population vaccinée d'ici la fin de l'année 2021. La Tunisie qui est aidée, elle a réceptionné hier un don de 90 000 doses de vaccins contre le coronavirus. C'est l'ambassade de France qui a fait ce geste à l'égard de la Tunisie. Également au Maghreb, des inquiétudes à l'aube de la rentrée scolaire en Algérie, notamment en provenance de la wilaya de Boumerdès. Les premières informations qui parviennent font état de surcharge dans les classes, beaucoup trop d'élèves pour l'instant. Les autorités locales qui sont en charge de travailler sur les regroupements scolaires sont à la peine pour essayer de mettre un nombre minimal d'enfants dans les classes d'école de telle façon à ce que ceux-ci puissent apprendre dans les meilleures conditions. Et puis en Mauritanie, il y a eu cette signature d'un accord de financement à hauteur de 600 millions de dollars américains. C'est le ministère des Finances qui l'a annoncé. Alors c'est de l'argent qui ira directement dans des administrations, dans des sociétés nationales. L'idée est de renflouer leurs caisses pour leur simplement les aider à travailler, notamment dans le secteur de de l'énergie, puisque cela va permettre d'ouvrir une ligne de crédit pour l'importation de carburant. Là, c'est la Somelec et ainsi que la SNIM qui sont concernés. Et puis également, la centrale d'achat du pays, la CAMEC, elle va pouvoir ainsi ouvrir une ligne de crédit de telle façon à ce qu'elle puisse importer des médicaments. Alors, pas seulement sur le Covid-19, même si la vaccination est tout à fait importante, hein, il faut le dire, il faut le répéter, mais c'est vrai aussi que ça va permettre de doter les infrastructures hospitalières mauritaniennes ainsi que les centres de santé des médicaments nécessaires. Au-delà de nos régions, parlons de l'Afghanistan. Les talibans n'ont toujours pas de gouvernement, mais néanmoins une déclaration, à savoir qu'ils vont laisser partir librement les Afghans qui souhaitent quitter le pouvoir. L'aéroport international est en train d'être remis d'aplomb par des Turcs et des Qataris qui sont en train de réorganiser l'aéroport de telle façon à ce que celui-ci puisse retrouver la pleine fluidité des passagers qui était la sienne avant le départ des Américains. Il y a eu des tirs en l'air pour disperser une manifestation anti-pakistanaise à Kaboul. Ce sont des tirs aussi qui ont concerné également des tirs en l'air, mais une manifestation de femmes. Et puis, il y a eu cette affaire qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est un homme, Jalalabad, qui a volé deux pneus. Alors, plutôt que de l'exécuter, comme ça aurait été le cas il y a de cela quelques années, entre 1996 et 2001, l'homme a été contraint de mettre les pneus autour de son cou et d'être promené dans la ville pour montrer le méfait qui est arrivé aux voleurs. Donc cela prouve que les talibans sont vraiment aujourd'hui dans une politique de communication visant à marquer le changement. Ils ne procèdent plus aux justices expéditives, en tout cas c'est le message qu'ils veulent envoyer, mais ils essayent de trouver d'autres façons de juger des personnes qui ont commis des actes délictueux, comme par exemple voler des pneus. À Dera, en Syrie, toujours beaucoup d'incertitudes. Cela fait maintenant plus de deux mois qu'il y a le siège de cette ville rebelle par les forces gouvernementales. 400 rebelles ont accepté de déposer les armes, de renoncer à la violence. Alors, ce n'est pas la première fois que des rebelles de Dera acceptent de rendre les armes. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont rejoindre la province d'Idleb. Est-ce que le HTS de Joulani va accepter d'accueillir ces hommes? Est-ce que, une fois qu'ils ont rendu leurs armes, ils vont rester vivre sur Dera? C'est ce qui s'était passé en 2018, mais ça n'a pas marché, puisque regardez ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours des affrontements sur Dera. En tout cas, ça reste malgré tout une avancée, ces 400 hommes qui renoncent au combat, qui rendent leurs armes. Maintenant, reste à savoir comment va s'organiser concrètement leur reddition.
Ce proche Proche-Orient, si loin de nous.
Nous prenons la direction de la Palestine où les forces de défense israéliennes ont mené des frappes aériennes, des frappes de représailles, ceci dans le sud de Gaza, en réponse à des lancements de ballons incendiaires qui ont été dirigés vers Israël. 3 incendies ont été déclenchés. Il n'y aurait pas pour l'instant de victimes, seulement des dégâts matériels. Qui a lancé ces ballons? Israël croit savoir que c'est le Hamas, mais cela pourrait être tout autant le djihad islamique ou d'autres factions palestiniennes. Le fait est, c'est qu'il y a un climat de tension. On se souvient de cette réunion qu'il y a eu récemment entre la Palestine, la Jordanie et l'Égypte. L'idée générale étant d'essayer de trouver une solution qui soit une solution arabe et de faire en sorte qu'il y ait une baisse de la tension avec l'Égypte, qui est toujours en contact avec Israël et qui essaye de faire en sorte qu'il y ait une fluidité retrouvée sur le matériel de reconstruction. Parce que c'est vraiment là un point qui cristallise énormément, énormément les tensions. C'est qu'après les affrontements qu'il y a eu en mai, ces 11 jours de guerre, il y a beaucoup de travaux de reconstruction qui n'ont pas pu commencer faute de matériel. Le matériel est toujours bloqué aux frontières de la bande de Gaza, partiellement bloqué, pas tout, mais quand même un petit peu. Également des difficultés pour faire transiter l'argent qui vient de l'étranger, qui arrivera au Gazaoui. Alors, il y a un nouveau mécanisme qui a été pensé. C'est un mécanisme qui est contraignant, mais qui a été accepté par les Israéliens qui craignaient que l'argent tombe dans les caisses du Hamas. Là, on sait que l'argent tombera dans les caisses de ceux qui en ont véritablement besoin, donc des gens qui vont pouvoir acheter du ciment, payer de l'eau, un petit peu d'électricité pour essayer de reconstruire leur maison. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours ce climat de tension avec ces jeux qui sont faits par les autorités israéliennes sur la zone de pêche qui est un jour rétrécie, le lendemain agrandie. Donc des incertitudes sur l'approvisionnement en poissons, le train de vie des pêcheurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de prises plus importantes qui vont leur apporter plus d'argent? Est-ce qu'ils vont pouvoir vendre au marché? Voilà, tout cela fait qu'il y a un ensemble de facteurs connexes, même aussi de facteurs socio-économiques qui créent une tension et cela se traduit par des actes de lancement de ballons incendiaires et toujours cette question qui en est à l'origine. Alors là, pour l'instant, Israël dit que c'est le Hamas. On peut considérer qu'Israël étant bien informé, cela provient du Hamas. Le Hamas qui, a priori, était quand même sur une tendance plutôt baissière hein, ces dernières semaines, qui ne voulait pas faire trop monter la pression avec Israël. Est-ce que c'est le djihad islamique qui se fait passer pour le Hamas? Ce sont là beaucoup de questions qui se posent sur ces envois de ballons incendiaires qui demeurent aujourd'hui un véritable outil de pression des Palestiniens à l'encontre d'Israël. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.